Entre parenthèses, vous savez qu'on réfléchissait beaucoup au Moyen-Âge. Je dis ça parce qu'il y a parfois des chrétiens mal informés qui sortent cette bêtise. Aujourd'hui, on réfléchit plus qu'au Moyen-Âge. Vous dites une idiotie. Parce qu'au XIIIe siècle, à Paris, il n'y avait pas de physique, il n'y avait pas de chimie, il n'y avait pas de sciences nattes, il n'y avait pas d'informatique. Que faisaient les jeunes gens qui venaient de l'Europe entière à Paris faire des études de la philosophie et de la théologie à plein tube, un peu de musique et d'astronomie? Ils n'avaient que ça à faire. Il faut voir les questions qu'ils se posent. Donc, quand saint Thomas, au XIIIe siècle, commence son cours sur le Christ, qu'on appelle la troisième partie de la somme théologique, il se pose la question. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu nous réconcilier avec lui simplement parce qu'il est bon, comme le père de l'enfant prodigue? Le père de l'enfant prodigue n'exige rien de son fils pour lui pardonner. Il se contente de le serrer contre sa poitrine et de l'embrasser. C'est ce que pensent les juifs et les musulmans. Dieu nous pardonne parce qu'il est miséricordieux, point. Et les chrétiens affirment, mais justement, il y en a aujourd'hui qui n'osent plus y croire, et c'est la raison de la toute dernière encyclique de Jean-Paul II sur l'Eucharistie. Allez voir le début de cette encyclique. Jean-Paul II n'avait rien de nouveau à nous dire sur l'Eucharistie, mais il a voulu rappeler ce mystère contesté dans l'Occident chrétien du caractère sacrificiel de la croix et de la messe, à savoir que la messe, c'est pas seulement un repas où Jésus se donne en nourriture, mais c'est un sacrifice où Jésus s'offre en sacrifice, en rédemption du monde. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a réconciliés dans ton alliance. Par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Et alors Jean-Paul II sait quand, dans l'Occident chrétien, il y a des intellectuels qui s'offusquent d'un tel mystère. Enfin, Dieu a besoin de sacrifice pour nous pardonner. Mais alors on est revenu à l'époque des Aztèques, au Mexique, qui offraient 5000 esclaves à la divinité en s'imaginant que ça allait lui faire plaisir. Ou bien à la religion cananéenne, où l'on offrait des petits-enfants aux dieux cananéens pour s'allier leur bonne grâce. Ou à la religion grecque, où l'on offre Iphigénie à la colère des dieux pour qu'ils envoient le fang favorable sur la flotte. Mais c'est du paganisme. La croix, c'est pas un sacrifice offert au Père. C'est une manifestation de l'amour de Dieu. Et comme c'est vrai, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. Regarde ton crucifix et tais-toi. C'est ce que nous faisons tous dans la Semaine Sainte. Mais, rappelle Jean-Paul II, c'est plus que ça la croix. Tout le Nouveau Testament proclame que la mort de Jésus sur la croix, c'est un sacrifice que Dieu a voulu recevoir. Il aurait pu s'en passer, mais il a voulu le recevoir. C'est le paradoxe. Il nous aime gratuitement. Regardez, ce matin, lorsque vous étiez encore dans une PPP, dans une position parallèle au plancher, Dieu vous aimait déjà. Alors vous ne dites pas trop ça à vos enfants, parce qu'ils resteraient au pieu toute la journée. Mais c'est vrai, Dieu nous aime gratuitement. Il ne nous aime pas parce que nous sommes à part monial, il nous aime parce que c'est un père qui ne peut pas faire autrement que d'aimer ses gosses. Donc c'est vrai. Et il aime beaucoup nous pardonner. Mais tout le Nouveau Testament, les évangiles, saint Paul, saint Jean, l'Épître aux Hébreux, les Actes des Apôtres, l'Apocalypse, tous les livres du Nouveau Testament proclament que la mort de Jésus sur la croix est un sacrifice qui sauve le monde. Ceci est le calice de mon sang répandu pour vous et la multitude en rémission des péchés. Et du coup, tous les sacrifices sanglants de l'Ancien Testament prennent signification. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que pendant des siècles on offre des boucs, des taureaux, des colombes
qu'on fasse toute cette boucherie dans le temple de Jérusalem. C'est Dieu lui-même qui l'a voulu. C'est le livre de Lévitique qui organise ces sacrifices sanglants. Pourquoi Dieu l'a voulu ? Pour annoncer le sacrifice sanglant du calvaire par lequel nous serions réconciliés avec Dieu. Nous ne sommes pas seulement sauvés par la miséricorde du Père, mais par le sacrifice du Fils. Et si vous n'y croyez pas, daignez ne plus venir à vos eucharisties. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Et du coup, et c'est la bonne nouvelle, c'est au cœur de la bonne nouvelle, tous nos sacrifices ont une valeur. Vous n'annonceriez plus ce qui est le cœur du christianisme, sous prétexte que c'est mystérieux. C'est cela qui évangélise, c'est cela qui fera revenir nos gens dans les paroisses et dans les églises et dans les couvents. Hey, imaginez que je sois prêtre uniquement, vous savez mes frères, bon Dieu il est bon. Hein. Il est bon le bon Dieu, ah oui. Vous restez dans votre maison le dimanche matin, il vous aime quand même, et le plus fort c'est que c'est vrai. Mais si vous ne dites que ça, les gens ils restent chez eux, à laver leur voiture ou à faire leur comptabilité. Le Seigneur, il a besoin de vous. Il a voulu avoir besoin de vous. Parce que Dieu n'est pas paternaliste, voyez-vous. Qu'est-ce que c'est que le paternalisme? C'est quand on aime ses enfants sans rien attendre d'eux. Oh, bien sûr que vous n'aimez pas vos enfants pour le petit cadeau qu'ils vous offrent à la fête des pères ou à la fête des mères, bien sûr. Vous n'en avez pas besoin, mais vous ne le dédaignez pas. Sinon, vous n'aimeriez pas vraiment vos enfants. Eh bien, Dieu nous aime tellement d'un amour nuptial, d'un amour non paternaliste, qu'il a voulu que les hommes puissent lui offrir quelque chose en rémission de leurs péchés et pour le salut de leurs frères. Et c'est passionnant. On n'entre pas seulement au séminaire, au couvent et dans les églises pour recevoir, mais pour donner. Est-ce que vous venez à la messe pour donner quelque chose? Est-ce que vous pensez à offrir les sourires que vous conservez au milieu de vos épreuves? Dieu en a besoin. Hier en voiture, j'avais un souci. J'ai passé tout mon voyage à offrir ce souci au Seigneur, mon sourire au milieu de ce souci. Et ça lui plaît. Il n'y avait personne qui le voyait. J'étais dans ma petite voiture. Mais le Seigneur, il avait besoin de mes sourires. Ça sauve le monde. La vie a un sens. On n'est pas sur terre en attendant que ça se passe. On est ici dans une grande entreprise de sauvetage. Il dépend de nous que les gens réussissent leur éternité ou non. Ce n'est pas joué d'avance. Voyez, un André Malraux, ministre de la Culture, n'y croyez pas, mais il vous aurait fait 6 heures de cours d'histoire de l'art pour vous dire que c'est le summum de l'art chrétien. Ces visages gothiques qui souffrent, qui sont ridés, mais qui savent que leur souffrance n'est pas inutile. Quand je vois un visage gothique au portail de nos cathédrales, je vois quelqu'un qui réussit sa vie parce qu'il sait que sa souffrance n'est pas inutile. Je pense ici à tous ceux qui ne réussissent pas tellement leur foyer, ou même dont le foyer s'est dissocié. Vous avez raté l'idéal de votre jeunesse. Former un foyer magnifique où les enfants puissent s'épanouir merveilleusement, c'est râpé. Vous avez raté votre foyer, mais vous n'avez pas raté votre vie. Parce que si vous offrez votre sourire au milieu de cette souffrance, vous sauvez tous les autres foyers. Et il y a ici des foyers qui réussissent leur vie et leur couple et leurs enfants, parce qu'il y a des couples sans enfants qui offrent leur stérilité pour le salut des autres. Et parce qu'il y a des divorcés qui offrent leur souffrance au milieu du bonheur des autres. C'est le problème des martyrs. Pensez à tous ces jeunes du 19e siècle qui sont entrés aux missions étrangères de Paris. 6 ans de séminaire, 3 ans pour apprendre le chinois ou le vietnamien. Ils partent là-bas et au lieu de convertir les gens, ils leur font faire un nouveau péché mortel, puisqu'ils se font tuer par eux. Ils auraient mieux fait de rester chez eux. Eh bien non. Ils pensent qu'en offrant leurs souffrances, leurs épreuves, leurs martyrs, par Jésus, avec lui et en lui, ils sauvent le monde. C'est la grande espérance de tous les martyrs. suivant le mot de Tertullien, Sanguis Martyrum, Semen Christianorum. Le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Et c'est la raison pour laquelle, la raison surnaturelle pour laquelle je crois qu'il va y avoir